Vous voilà donc à la tête d'une trentaine de livres désormais, hein. C'est très impressionnant.
À la tête, au chevet plutôt.
Au chevet, après avoir été l'homme de chevet, après avoir écrit l'homme de chevet et tant d'autres livres, avoir eu aussi la reconnaissance de nombreux prix, hein, depuis 1984 finalement, depuis vos débuts dans...
Des petits prix.
Des petits prix, des le petits prix Tidemonnier, le prix de la vocation.
Oui.
Et puis après, des prix plus importants. Et aujourd'hui, vous voilà, au dire de l'Express, dans les 10 incontournables de la rentrée.
C'est ce qu'ils disent. Hein.
C'est ce qu'ils disent. Ouais. Et vous voilà aussi dans la première sélection du Renaudot 2015.
J'ai vu aussi que j'étais dans les 10 livres dont on peut se passer.
Oh.
Ça équilibre, non?
Alors voilà, en quelques répliques, vous voyez, résumer la discrétion, la délicatesse et le travail. D'Eric Holder, quoi qu'il en dise.
Il faut vous rajouter quelque chose, quoi qu'il en dise, rien.
Oui. Alors, dans la saison des bijoux, nous revoici en Médoc, comme dans Bella Ciao, par exemple, comme dans De loin, on dirait une île. Hein, et vous pouvez compléter la série.
Donc c'est le quatrième livre qui se passe en Médoc. Je m'étais promis à part moi de n'en écrire que trois sur cette région. Et le décor l'emporte parce qu'on se rend compte que, eh bien, dans le Médoc, il n'y a pas grand-chose, pour ainsi dire rien. La nature est préservée, donc tout peut se passer. C'est un théâtre d'opération, hein, assez parfait. Et qui continue d'offrir plusieurs aspects pour la narration. Il y a aussi bien la plage, l'océan, c'est-à-dire l'océan qui apparaissait. Vous parliez de 30 volumes, mais par exemple, dans un volume L'homme de chevet, pour ne pas le citer, eh bien, l'océan venait finir le livre. L'océan est un acteur de livre assez formidable. La forêt, le côté bayou du Médoc, peut également servir. Voilà.
Oui. On voit le paysage qui vous inspire. Mm-hmm. Vous l'avez dit précédemment plusieurs fois, hein, qu'un paysage était pour vous souvent au départ de l'inspiration. Et c'est vrai que le Médoc, que l'on connaît bien ici à Bordeaux, que je connais particulièrement bien, comme sous la caisse, offre une variété pour qui sait le regarder. Et c'est d'abord ça que vous nous offrez dans ces romans et dans votre écriture romanesque. C'est un regard, une acuité du regard, une délicatesse aussi du regard, à toute heure de la journée, en toute saison, puisque la saison des bijoux ne se passe pas que, strictement parlant, en juillet-août. Bien avant, il y a déjà la première arrivée du printemps, hein, au début du livre. Et puis, ça se termine en septembre. Donc, on a quand même une variété de ciel, notamment, et d'atmosphère météorologique, en somme, qui est tout à fait passionnante à lire.
Alors, il paraît que les nuages sont les mêmes partout. Il y aurait seulement 10 sortes de nuages. Cependant, il paraît qu'en Médoc, c'est le réservoir des plus vieux nuages du monde. On les reconnaît à leur teinte ivoirine les jours de la Saint-Glinglin.
Un autre aspect, oui, de votre inspiration et de votre écriture, c'est la poésie. Et là, vous venez d'en donner une petite touche. Mais cette poésie, on la rencontre vraiment au fil des pages. Et encore dans ce nouveau livre, La saison des bijoux, déjà dans le titre est très évocateur, très poétique.
Merci. Oui, OK pour le titre. Cependant, je remarque que vous êtes une lectrice attentive, dans la mesure où ce que vous avez repéré du passage des saisons dans la saison précisément des bijoux correspond à la réalité, vous qui êtes de Soulac. C'est pas la même en avril qu'en août, qu'en septembre.
Oui, exactement.
Hein, bon, alors la poésie est là, élémentaire.
Oui, mais cette sensibilité aux éléments naturels, on la voit aussi dans l'écriture du narrateur, en somme, mais aussi dans la bouche de vos personnages ou simplement dans les pensées des personnages, parce que vous entrez aussi dans la tête de vos personnages et vous révélez au lecteur ses pensées, ses impressions intérieures. Et je voudrais juste, par exemple, en citer une occurrence, voilà, à propos de Jeanne. À propos de Jeanne, l'espèce de coup de cœur finalement qu'elle a elle aussi pour le Médoc qui nous est arrivé à tous quand on est arrivé de l'extérieur sur le littoral aquitain et en Médoc en particulier, on est beaucoup à avoir ressenti voilà une espèce de choc amoureux. On tombe sous le charme de manière immédiate. Par exemple, page 55, l'heure teintait l'océan ce jour-là d'un bleu dur, impérieux. La brise était plus que parfumée. Exquise, porteuse de bulles microscopiques. Quelques-unes, en explosant sous son nez, contribuaient à la libérer de la pesanteur. Rien, absolument plus rien, ne semblait avoir d'importance dans ce souffle précis de l'air, dans son frémissement. Une seule pensée, ne plus bouger. Jeanne, qui ne s'était jamais sentie exister qu'au bord de disparaître, découvrait qu'on pouvait ne pas être grand-chose et s'en porter bien. Par exemple, une puce de mer, un oya parmi des milliers. Nul besoin de se blesser, de s'amputer. C'était simple, il suffisait de fermer les yeux dans le vent, de goûter le sable entre les doigts de pied, d'adhérer de toute sa peau à l'instant. La ronde, le refrain, la ritournelle intérieure cessaient enfin, remplacés par une bouffée d'hélium, une élévation, une transparence. Mais c'est un passage au hasard, finalement, parmi des centaines d'autres, qui nous montre de manière...
palpable,
immédiate, palpable, voilà, sensuelle même.
Hein, oui, qui est constitutif de l'océan.
Voilà.
Bon, on va peut-être arrêter de faire les médocains qui parlent du Médoc sans
oui,
arrêt.
Oui, tout à fait. Mais c'est juste pour planter le décor.
Et pour abonder dans votre sens, il se passe le Médoc ou ailleurs, hein, le long de la côte, mais il se passe quelque chose avec l'océan, c'est qu'il est aussi, comment pourrait-on dire, source d'inspiration et nécessaire que la montagne, par exemple. Les montagnards ne peuvent pas vous expliquer pourquoi ils sont collés à la montagne et pourquoi ils adorent ça. C'est vite fait d'abord, et puis ça serait lassant pour nous autres qui partageons pas leur joie. Bah, c'est pareil à l'océan. C'est voilà, l'océan est c'est difficile d'en parler, ça se ressent, c'est avec la peau et la poème, comme dirait l'autre, et voilà.
Voilà. C'est difficile d'ajouter quelque chose après ce que vous dites. Néanmoins, on va essayer donc de donner envie aux uns et aux autres donc de lire le nouveau Eric Holder et pour ceux qui l'ont déjà lu, ben de partager avec nous ces quelques impressions. Donc il y a un décor, il y a un lieu, il y a une écriture de poésie et d'images, il y a des personnages aussi, et alors il se passe des choses dans cet endroit où rien ne semble se passé, cet endroit où il n'y a rien, comme vous disiez. Il se passe beaucoup de choses, et c'était déjà le cas dans vos précédents romans, d'ailleurs. On a l'impression que tout est paisible en apparence, et en fait, il va se passer énormément d'intrigues, énormément de rancunes, de drames même, au fil des 16 chapitres qui composent le roman.
Alors, de la façon la plus simple possible, c'est qu'il n'y a rien, c'est une place de marché, assez calquée sur celle de Montalivet, désolé de revenir au Médoc, mais pour ceux qui connaissent le marché de Monta, c'est-à-dire une place grisade, vide, comme il y a aussi dans d'autres villes de France, et qui devient le matin, dès 6h30, le théâtre d'une opération étrange, qui est le marché. Et le marché, tous les marchés sont différents, les marchés sont nombreux, les marchés, ce sont à chaque fois des tranches de vie crues, si vives, que sur tous les marchés, on dit « Ah, il y aurait un bouquin à écrire sur ce marché ». Si on l'a pas entendu, ça l'a. Or, il y a très peu de livres écrits sur les marchés. Sur les forains, c'est-à-dire ceux qui font les foires, et là, c'est, on va dire, le degré au-dessus des camelots, les camelots de marché. Eh bien, sur les marchés, précisément, peu de choses ont été écrites, sauf un livre de François Garcia, arrêtez-moi si je me trompe, Garcia ou Gracia, consacré au marché des Capucins, qui s'appelle « Jour de marché », chez Liana Lévy, je crois. À part ça, sur les marchés, peu ou pas de littérature. Ce qui est quand même assez peu ordinaire dans la mesure où les marchés, c'est aussi la représentation du peuple. La quintessence du peuple, elle est sur le marché. D'abord parce que ce sont des cultivateurs de trottoirs. Eux-mêmes ont vu passer tellement de monde. Ce sont des espèces de cultivateurs de trottoirs. Il n'y a pas d'autre mot. Peu importe l'article. D'ailleurs, enfin, certains cultivent le même article de grand-père en petit-fils. C'est pas le cas. Mais il y en a, et beaucoup de nouveaux, ou beaucoup même de la génération des camelots des années 70 qui changent d'article au gré des marchés qu'ils font. Peu leur importe de vendre des savons de certaines années, de représenter d'autres articles. Ils essayent de suivre comme ça une espèce de mode. Ils sont toujours à la pointe et sur un bout de trottoir. Alors ça, c'est absolument fascinant. Et puis, bien entendu, tous les marchés sont différents, mais ils sont tous régis par la même règle. C'est celle du placier. C'est le... Alors, dans ce livre, La saison des bijoux, il n'était pas question d'embêter les placiers, qui sont des personnes qui, pendant 4 ans, vivent à peu près des conditions normales, faute de quoi, après, il s'agit pour eux de s'imposer. Ils sont toujours en vue. Les pauvres, ce n'était pas la peine de les accabler davantage. C'est pour ça que l'ordure en question dans le livre n'est pas le placier, mais un buffetier, Forgeot, qui a le placier sous sa coupe et qui le soudoie d'une certaine façon.
Alors, dans ce milieu dans lequel vous entrez, et le lecteur entre avec vous, vraiment au fond des choses, à l'intérieur, à l'envers du décor, parce que tout le monde a déambulé comme touriste dans des marchés l'été, mais entrer vraiment dans le fonctionnement de ce milieu particulier et dans la tête aussi de ces gens et dans leur diversité, vous réussissez à nous rendre privilégiés dans cette entrée-là, au fond des choses. Et il y a une galerie de personnages qui est absolument passionnante, parce que c'est très, très varié. Il y a tous les âges, il y a tous les parcours de vie. Et donc, au fil de l'histoire même de la saison, en fait, par ordre chronologique, on s'attarde également sur chaque personnage, ou presque. On remonte sur le passé de tel ou tel personnage, y compris le salaud, Forgeot, parce qu'il n'a pas toujours été aussi antipathique. Hein, on a dans un chapitre, je crois que c'est au chapitre 7, on a un retour en arrière sur sa jeunesse, en fait, sur son amour fou pour sa femme, Sophie. Et à ce moment-là, il est plutôt sympathique. Mais dans le même chapitre, malheureusement, il commet sa première saloperie, on peut dire. Et il n'y en aura pas qu'une seule, voilà. On ne nous en dit pas plus, parce que c'est aussi ce qui fait le fil conducteur du roman, bien sûr.
Entendu.
C'est comment les saloperies, les injustices de Forgeot vont pouvoir être un jour quand même stoppées, comment il va y avoir une revanche contre l'injustice. C'est aussi peut-être ça un aspect de l'intérêt du roman, c'est cette attention à l'injustice, parce qu'il y a un nombre phénoménal de gens qui sont lésés par ce salopard.
Ouais.
Et donc le lecteur trépigne, quoi. Il se demande jusqu'à quand ça va durer. Et grâce à vous, dans le roman, justice sera faite.
Enfin, grâce à moi, je ne suis pas si sûr. Il y a un moment, non, je vous assure, il y a un moment où on laisse la bride sur le cou des personnages, comme il s'agit de le faire. On ignore jusqu'où ils vont aller, et je vous assure que l'air du temps, dans ces cas-là, dicte certaines choses. Dont on reste un peu surpris plus tard. Voilà.
Oui, peut-être que les personnages entraînent le romancier, mais en même temps, on voit bien que tout est très construit. Par exemple, dans le passage que j'ai lu sur Jeanne et ses impressions, son pur sentiment d'exister, comme aurait dit Rousseau, là, grâce à la plage, il y a des petites notations quand elle dit qu'il ne vivait qu'au bord de disparaître. Enfin, j'ai oublié la formule exacte.
Merci, c'est ça.
Mais
oui.
Voilà. Et donc, on sent qu'il y a eu un drame ou qu'il y a encore un drame dans sa tête et dans son histoire. Et ça ne va être révélé que plus tard. Et ça jouera un grand rôle aussi dans le roman, l'histoire de Jeanne. Donc, on voit quand même qu'il y a des jalons qui sont posés. Il y a une construction qui est assez sophistiqué même. Et pourtant, effectivement, vous nous laissez croire que c'est au fil du roman que les choses s'emportent dans telle ou telle direction. Mais laissez-moi douter.
Et pourtant.
Alors, il y a donc beaucoup d'histoires et beaucoup de, on pourrait dire, de magouilles, en fait, hein, de tripatouillage. Mmh. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est très cru par moment.
Oui.
Une tranche de vie bien crue, bien saignante par moment.
Il me semble d'ailleurs de plus en plus intéressant de tout dire. Il y a des choses certainement très inavouables, mais ça ne me dégoûte pas de plonger dans le côté sordose de l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. Un seul exemple. J'habite une maison paisible, une fermette dans le Médoc, au milieu des arbres, avec un platane centenaire et un puits à côté. C'est tout à fait propice à la lecture, à la rêverie. Et nul ne veut entendre, parmi les proches, parmi les personnes qui viennent me voir, etc., qu'il y a eu un crime auparavant, dans les années 60, et que dans le puits était caché le fusil qui a servi à ce crime. Enfin. Bon, moi, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas du tout de vivre à côté de ce puits. Bon, il y a d'autres personnes, si. Voilà, bon, c'est le même parti pris qui me pousse à dire de plus en plus les choses. La paix et la sérénité peuvent succéder au carnage.
Ou alors, est-ce que ce n'est qu'une surface ?
C'est par phase. C'est pas une histoire des surfaces, c'est par phase.
Et donc, on a aussi l'impression de voyager en lisant La Saison des Bijoux comme les autres livres. C'est-à-dire que l'imaginaire et les images, les métaphores, les comparaisons nous amènent. Par exemple, vous décrivez le marché, donc ce fameux marché, qu'il soit de Monta ou d'ailleurs. Et tout d'un coup, on est dans un western, par exemple. Et vous comparez les camions à des chevaux dont on prend soin parce que ce sont des montures précieuses. Ou alors à un marché oriental.
Alors, sur le marché oriental, il y a quand même une chose amusante, c'est que camelot vient de camel, chameau. Les camelots vendaient autrefois de la laine de chameau moins chère que de la laine de mouton, donc plus chaude, mais qui grattait. Bon, ça signifie aussi qu'il y a de l'Orient dans les marchés, irrémédiablement de l'Orient dans les marchés. Dès qu'on évoque un marché, déjà dans le terme de camelot, c'est un Orient. Donc je ne sais pas si c'est une réminiscence de souk ou que sais-je, mais il y a dans l'acte même de négocier, de se mettre sur un bout de trottoir et de négocier quelque chose d'oriental.
Il y a aussi le nomadisme, peut-être. Le fait nomadisme, que ça apparaît, c'est éphémère.
Oui, voilà. Alors, on ne peut pas toujours comparer les chamions à des dromadaires. Les chevaux aussi, oui, c'est vrai que des fois, c'est le western. Et puis évidemment, western parce que la côte ouest.
Hein. Oui, c'est ça. Mm-hmm. D'ailleurs, à propos de chameau, il y a un moment aussi où Jeanne est comparée à un chameau parce qu'on ne peut pas la contrarier directement, mais il faut l'accompagner et lui faire faire demi-tour comme un chameau pour la raisonner.
Oui, c'est d'ailleurs un proverbe arabe, je crois. Il s'agit d'une femme, disent-ils, tu ne peux pas contrarier une femme ainsi qu'un chameau, c'est-à-dire plutôt que de lui intimer une direction que de toute façon il ne prendra pas, prolonge son mouvement en le tenant par la bride, ainsi il finira bien par revenir à son point de départ.
Ouais. Alors c'est pas un proverbe un peu misogyne, et pourtant vous aimez beaucoup les femmes, et ça se voit dans chaque roman, et celui-là ne fait pas exception.
C'est un proverbe beaucoup misogyne, je suis tout à fait d'accord aussi, mais enfin, bon, pourquoi le retient-on ? Diable !
Mais il y a beaucoup de femmes très attachantes dans ce roman, il y a Jeanne donc, et puis il y a aussi Nanou, il y a aussi Wanda, il y a aussi même Sophie finalement, la femme de Forgeau, elle a aussi une dimension féminine intéressante, quoi. On sent cette tendresse pour les femmes.
Cette espèce de toute façon de complétude et de science et qu'elle continue de cultiver entre elles, cependant que les types se livrent à des exercices incompréhensibles. Oui.
D'ailleurs, vous faites parler les hommes regardant les femmes, et notamment je me souviens d'une scène, je ne sais plus dans quel chapitre, où les deux hommes de leur voiture regardent les trois femmes. Oui. Et justement, font ce genre de réflexion. Les femmes ont besoin de savoir tout expliquer. Elles se parlent entre elles.
Oui, mais ce sont des explications basiques, n'est-ce pas ?
Les plus vraies, peut-être ?
Celles qui sont directement au contact de la nature pour les types au volant de leur voiture. Oui.
Voilà. Hein ? Et pendant ce temps-là, les hommes, donc, soit ils ourdissent des complots, des machinations, des... Ou alors ils ont des rêves, hein, des rêves d'argent par exemple,
hein, oui,
assez insatiables.
Oui, l'argent pour les camelots, c'est quelque chose comme, c'est comme la pêche, ça miroite. Il y a des marchés de folie, il y a des marchés extraordinaire. On ne sait plus où donner de la tête. On s'en souvient toute sa vie. Quand on en parle avec eux, c'est fantastique. Puis, il y a des marchés où il n'y a rien. Où le marché zéro, alors, quelle que soit l'année, l'expérience, etc. Le marché où zéro, on s'est levé le matin, on a fait le stand, etc. Et, on n'a pas dérouillé, comme on dit en langage de Camelot, ça existe. Voilà, c'est l'espèce de loi mystérieuse du marché qu'on attend un petit peu comme le joueur à la roulette.
Oui. Est-ce que ça va marcher aujourd'hui, quoi ?
Oui, oui.
Le marché.
Oui. Et puis, ce sont... Oui.
Et j'ai un petit peu perdu le fil de ce que je voulais vous demander. Oui, à travers vos personnages, vous nous donnez aussi une certaine vision des hommes, toujours cette tendresse, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, d'ailleurs, on voit dans votre regard, enfin, celui que vous faites porter par certains personnages ou bien par le narrateur, une grande tendresse pour les hommes. Par exemple, Old Chap, qui dit à un moment, enfin, auquel plutôt le narrateur pense, et c'est le narrateur qui dit d'Old Chap, il était allé tellement loin dans... tellement loin au fond des hommes. Voilà. Et c'est une phrase qu'on pourrait vous prêter aussi à vous. Cette expérience humaine très variée, celle des ouvriers agricoles, celle des camelots, celle d'autres milieux encore, qui transparaît donc, dans votre construction des personnages, dans votre vision du narrateur aussi.
J'ai pas de problème avec les personnes du peuple, j'en suis de moi-même. Et ce que j'écris, je l'ai vu d'une façon ou d'une autre, ici et là, pour ce roman en tout cas. Donc, je me sens assez remparé de ce côté-là. Mais oui. C'est pas dire que je suis allé au cœur des hommes, etc.
Non, c'est Old Chap, ça. Et vous racontez son histoire aussi, qui est très romanesque et en même temps qui sonne très juste. On a l'impression que vous avez documenté ce roman et que vous avez effectivement rencontré des gens qui ont eu de manière véridique toutes ces mésaventures, parce que le plus souvent ce sont quand même des mésaventures ou même des tragédies.
Ah oui, mais dans le cas de Old Chap, par exemple, c'est quelque chose qu'on sait quand effectivement on connaît les alcooliques. C'est un alcoolique, ça a été un alcoolique invétéré, puis il a cessé complètement, il tient pendant des années, et voilà qu'à la faveur d'une vente réussie et dans une sorte de traquenard dans lequel l'amène Forgeot, il va toucher à nouveau au whisky, au meilleur, et tututer à partir de là de façon invraisemblable. Ça se terminera tragiquement. Bien. Beaucoup de personnes savent que si un ex-alcoolique, si un repenti touche une goutte d'alcool, c'est pendant deux jours d'affilée essayer tout ce qui va lui passer sous la main. C'est un réflexe presque. Hein. C'est faire connaissance avec une vieille copine qui vous amène au bout du monde. Voilà.
Oui. Alors. Et donc, vous parliez tout à l'heure de votre milieu d'origine, enfin de vos origines, et on n'a pas dit, mais je pense que vous êtes suffisamment connu maintenant avec ce nouveau roman. Vous avez vous-même traversé, côtoyé finalement beaucoup de milieux à travers beaucoup de petits boulots, tout en écrivant, puisque vous avez écrit très très tôt, mais vous avez connu justement beaucoup de... de personnes et de travaux difficiles, méconnus, modestes, non reconnus.
De toute façon, j'ai toujours voulu écrire. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas tant de solutions. Dès qu'il faut gagner du pognon, c'est les métiers les plus, j'étais coursier, j'ai été décompteur à la rame Gamex, hein. J'étais ouvrier agricole, souvent, c'est même le plus souvent maintenant. Des tas de boulots comme ça où on peut gagner un peu d'argent, enfin, vite fait, distribuer des prospectus en Haute-Provence, enfin, ce genre de trucs. Donc, quand je dis que je viens du peuple, c'est vrai, j'y suis resté, etc. Mais c'est un choix de vie. C'est là que ça chauffe le plus, quand même. Hein, soyons clairs. C'est avec les vrais gens.
Hein. Oui, voilà. Non. Et dans Bella Ciao, d'ailleurs, on voit bien à quel point être ouvrier agricole faisait partie du roman, vraiment, et se nourrissait justement de votre propre expérience.
Il y a d'autres expériences comme ça en littérature. On peut penser à Pierre Naville dans les années 30, hein. Qui a été jardinier jusqu'à l'âge de 40 ans, terrassier, etc. Qui a été le jardinier de Paul Bourget, l'auteur de Toi... Paul Bourget, oui, effectivement. Ou Géraldine, tout à coup j'ai un trou, l'auteur de Toi et moi, Géraldine.
Géraldine,
merci
oui.
Madame. Et donc Paul Géraldine l'a fait connaître son jardinier, a publié son premier livre, et c'était formidable. Travaux donc de Naval, voilà. Bon, c'est aussi une certaine littérature.
Voilà. Oui, tout à fait. Et justement, ce qu'on touche du doigt en lisant vos livres, c'est souvent cette parlure, la manière de parler, les mots des Camelots, là, dans celui-ci, mais d'une manière générale, les mots propres à un milieu. Ça, c'est très enrichissant aussi quand on lit vos livres.
Ah, riche vocabulaire, et hélas, il semble que pour ce volume, quelquefois, il faille s'emparer du dictionnaire. Mais il y a des mots de Camelot qui sont absolument formidables. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Narvalo. Celui-là, c'est un Narvalo. On va dire, globalement, c'est un bon à rien, mais si on le prononce avec un peu de sympathie, « Oh, Narvalo !» C'est tout de suite différent. En fait, Narvalo, c'était un petit personnage dans le folklore gitan qui suivait toujours les marchés, les cirques, l'idiot de village, en quelque sorte, qui suivait les cirques tant et si bien qu'il les suivait tellement loin qu'il fallait l'employer après. Alors, on l'employait à planter des piquets pour le cirque, il donnait à manger aux bêtes, le Narvalo, quoi, un peu... Voilà.
Voilà, et au détour de phrases, on trouve cet emploi qui vous vient, ou que vous mettez comme une espèce de pierre précieuse, quelquefois dans vos phrases aussi.
Oui, bah ça brille, Narvalo, hein, c'est joli.
Voilà.
C'est vrai.
Et il y a les gitans, donc, parmi ces camelots, et il y a les landiers.
Oui, alors les landiers, par exemple, ce sont les lourds sur les marchés, les poissonniers, les bouchers, les charcutiers, ceux qui ont des camions qui sortent avec des auvents, avec des comptoirs. Les landiers, ce sont d'anciens chenets lourds, pas des petits chenets pour mettre une bûche, non, des gros chenets qui bougeaient pas, quoi. Ben, c'est un peu les gros camelots, c'est un peu ça, quoi. C'est eux qui pèsent sur le marché, quoi.
Donc il y a cette saveur des mots aussi qui est vraiment très très intéressante à découvrir.
Il y en a que j'ai pas mis dans le bouquin, mais il y en a chez les camelots, notamment les lapineaux ou les cambreaux, les lapineaux ou les cambreaux, c'est ceux qui installent une 40 tac 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 sur le trottoir et qui ramènent la monnaie, qui ramènent les schmerz. Allez, on y va. Bon, ça c'est des... Il faut ramener la monnaie, allez, quel que soit l'article.
Voilà, alors quand vous dites tout, il y a effectivement tout ce côté magouille, et même pire, hein, chez certains des personnages, mais il y a aussi, on le sent bien, l'éloge finalement, l'éloge de leur ingéniosité, l'éloge de leur courage, l'éloge de leur endurance, et finalement de leur amour de la vie.
Et de leur indépendance, de leur liberté, de leur dignité. Sur les marchés, ils sont indignes. Je ne sais pas si vous avez vu les camelots, puis alors surtout quand ils ont quelques générations derrière, quels qu'ils soient, ils sont droits, ils sont dans le vent, ils sont bronzés, ils sont libres.
Surtout les femmes, hein, il y a de belles descriptions de l'allure,
femmes,
la
si
fierté
vous préférez
des
les
femmes.
Femmes vous
oui,
aussi,
oui, je préfère les femmes.
Regarde, mais bon.
On va dire ça pour ce soir.
Il y a des beaux hommes aussi, hein. Je connais beaucoup de femmes qui vont au marché parce que c'est lui qui vend les légumes. Hein.
Oui, par exemple, le fils de Forgeau...
Et c'est un truc comme un autre, hein, pour les camelots femelles ou mâles, le décolleté ou le débardeur. Hein.
Et celui qui se met torse nu.
Mais oui, évidemment, allez, ramène la monnaie.
Voilà, donc on est sans arrêt saisi par la justesse de ces observations, de ces scènes, et aussi par leur côté visuel. Alors quand on sait que deux de vos romans ont déjà été adaptés au cinéma, hein, ici tout le monde le sait, en 2009, L'homme de chevet et puis la Mademoiselle Chambon, est-ce que ça influence votre écriture? C'est-à-dire, moi j'ai remarqué par exemple que dans un chapitre, il y avait des scènes comme ça qui se succédaient, cut, quoi. On passe de personnage à un autre groupe de personnages, et il faut redécouvrir la situation, on est vraiment en immédiat stress, et ça c'est très visuel, c'est très cinématographique. Est-ce que ça vous influence dans votre écriture, cette idée que peut-être ce roman va être adapté au cinéma?
Alors, il faut que de façon encyclopédique, je vous reprenne un tout petit peu, il y a trois films qui ont
été, oui,
un dernier qu'on n'a pas vu, Bienvenue parmi nous,
oui,
de Jean Becker, avec Gilbert Chesnay et je ne sais plus comment elle s'appelle, une jeune comédienne, l'histoire d'un peintre qui décide de finir ses jours
et qui rencontre une stoppeuse.
N'en parlons plus.
C'est vrai, j'avais
bien
oublié.
Non, mais n'en parlons plus, ça n'a pas davantage d'importance. En revanche, on ne peut pas... Alors, tout de suite après ces trois films, pour ne pas sombrer dans j'écris pour le cinéma, j'ai écrit un recueil de nouvelles érotiques et un album pour enfants. L'alphabet des oiseaux. Après, comme ça, je pouvais reprendre un roman sans penser au cinéma. Je n'ai pas pu, en route, ne pas penser au cinéma. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a des histoires de putes tout le temps et le cinéma attend les putes. C'est vrai. Je suis sincère. Et quand des histoires de putes, je n'y pouvais rien. Comme je vous dis, certaines créatures font leur chemin. Il n'y a plus qu'à les suivre attentivement. Ah, je me hâte de dire qu'il y avait 30 pages. D'ailleurs, sur ce sujet, les putes, ça devait me travailler à ce moment-là. Parce que je constatais que dans la France rurale, et pas le Médoc, hein, je me hâte de le dire, mais dans la France rurale en général, il n'y avait pas de débouché pour les deux ou trois filles canons par village. Autre que le salon de coiffure à la porte duquel, derrière, attendent en général des jeunes mecs qui vont les emmener voir le monde. Ok, je me disais, il n'y a pas quelque chose à faire là. J'étais vraiment révolté, j'en parlais avec des copains. Attends, toutes les plus belles, elles s'en vont comme ça. C'est pas une expérience isolée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me créditez de connaître du monde. Ok, c'était pas une expérience isolée. Du coup, il y avait 30 pages de plus qui ont été sucrées quand même dans le dialogue. Enfin bref, j'en passe, vous n'avez pas lu le livre. Mais donc, c'est ça aussi. Donc, c'était ça la motivation, sans doute. Mais vous voyez comme on a le déclic de se dire « Ah, peut-être le cinéma ».
Oui, oui. Et aussi peut-être l'engagement. Hein, parce que ce que vous venez de dire montre aussi... On parlait tout à l'heure d'injustice et finalement de la solution qui est trouvée par le roman à ces injustices, la revanche finalement des lésés, des blessés. Peut-être aussi pour les femmes.
Et puis pour les femmes, et puis il y a un truc hein, quand même. C'est que... la bonté triomphe toujours.
Voilà, c'est ça.
Là, c'est pas un happy end.
Non.
C'est qu'en général, quand même, force est de constater hein, que c'est l'amour qui triomphe.
Ah ouais. Bon. Alors, j'avais repéré des passages qui pouvaient illustrer hein, mes questions, mes remarques, disons, mais je ne sais pas si c'est bienvenu d'en lire quelques autres. Des choses que j'aime bien, par exemple, parce que là aussi, j'y reconnais des paysages qui sont chers, qui me sont chers. Voilà, à mes yeux, et je pense à ceux de beaucoup d'Aquitains. La description des surfeurs, à un moment, ça vient un peu tard dans le roman, c'est au chapitre 12, mais on sait que le fils donc, de Jeanne et de Bruno est très content d'arriver sur la côte, hein, puisque ça le change, hein, ils sont habitués au marché du côté des monts du Lyonnais, et puis un jour, ils décident de venir sur la côte Aquitaine, faire la saison. Et donc, effectivement, Alexis apprend le surf. Et à la faveur d'un changement de temps. Avec le régime d'Est, petit vent de terre délicieux sous le soleil revenu qui cabrait haut les chevaux de l'océan, striés de surfeurs qui montaient flattés, parvenus là-haut, du plat de la main, leur encolure écumante, le public avait déserté le marché au profit de la plage. Donc, on explique pourquoi il n'y a plus grand monde au marché, hein, les affaires vont moins bien, mais en fait, c'est aussi... l'occasion de décrire les surfeurs et cet effet de vagues et de force de l'océan, cette comparaison avec les chevaux sauvages. Voilà, ce sont des bonheurs d'écriture qui frappent la mémoire, qui frappent l'imagination du lecteur et qui font vraiment apparaître, au fil de chaque phrase, apparaître ce dont il est question, hein, par la justesse.
Merci.
Ouais, par la justesse de l'écriture. Alors, on disait la bonté triomphe, l'amour triomphe, mais on a aussi parlé de tragédie, on a aussi parlé de mésaventures, y compris sentimentales. Alors là, on reconnaît aussi un Eric Holder qui va très, très loin dans la finesse des sentiments, dans la description des émotions, dans l'introspection par personnage interposé, peut-être. En tout cas, vous nous montrez les personnages par moments complètement perdus, complètement détruits même. Hein. Par exemple, c'est au chapitre 7, je crois, à la page 139, quand Bruno est complètement démoli hein, par les malheurs de Jeanne, finalement. On n'en dira pas plus, mais voilà un petit passage. Des valeurs autrefois solidaires, liées, s'éparpillaient comme une cargaison sur l'océan, déjà l'océan. Il mettrait du temps à la réunir, c'est risqué, long, pénible, il manque toujours des caisses. Donc il y a aussi une espèce de dérision, en même temps que la poésie des images, dans voilà, ce désastre quoi, intérieur, sentimental.
Ce naufrage.
Ce naufrage, hein, voilà.
C'est le mot qui n'est pas prononcé.
C'est ça, il n'est pas prononcé, mais la métaphore est filée, parce que les caisses dispersées sur l'océan.
Un naufrage, bon sang, toutes les caisses sont là, mais il n'y a plus de lien pour les tenir toutes. Elles sont en train de voguer sur l'océan. On en récupère une, on en récupère deux, et puis il faut faire avec.
Mais en même temps, on sait qu'il suffit d'une caisse à Robinson Crusoe pour refaire toute la civilisation.
Quand je vous disais que l'amour triomphe. Hein.
C'est ça. Oui, c'est tout ça. Reconstruire.
Allez. Voilà.
Alors, il y a aussi un éloge de Bordeaux. On ne pouvait pas passer à côté. Non. Il est question de temps en temps d'aller à Bordeaux, et tous les Médocains le savent. Hein. On ne peut pas vivre en autarcie. Et la preuve, c'est que nous sommes à Bordeaux aujourd'hui. Et donc, nous avons ce beau passage. C'est beau, Bordeaux, une ville à hauteur d'homme, avec ses clochers aiguillonnant un ciel qui, sinon, serait trop rond. Le pont de pierre, le quartier de lune, la Bastide, autour duquel s'enroule une boucle suave de Garonne. Les arbres bas, sur la rive en face, semblaient abriter des pontons, une vie de bayou. Bayou, c'est un mot que vous avez prononcé aussi tout à l'heure. Il y a toujours cet exotisme au détour de la banalité. Au détour de l'ordinaire.
Je suppose que ça frappe l'œil des Bordelais, même depuis des générations. Mais sur la rive en face, il y a ces canaux avec l'ombre des arbres au-dessus, des pontons, un clapot. On ne peut pas s'empêcher de penser à des palétuviers. Hein.
C'est un regard à la fois très personnel et dans lequel, effectivement, le lecteur peut se reconnaître tellement le regard est juste, tellement le mot est juste. Merci infiniment.
Merci d'être venu.